quand assumerez-vous votre part de responsabilité en présentant votre démission ?
Quand il y a des responsabilités, laissez les ministres prendre les sanctions qui vont avec ces responsabilités.
Dans toute démocratie mature, le garde des Sceaux aurait mis en jeu sa responsabilité.
J'estime en plus qu'on a pour le coup un ministre de la Justice qui est engagé sur les droits des enfants depuis le début.
Il faut qu'il reste à son poste parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Une affaire Liana, il y en aura peut-être une dans un mois, peut-être une la semaine prochaine. C'est vraiment un changement de paradigme que nous demandons avec le fait, un, de mettre cela comme priorité nationale pour toutes les autorités.
La troisième chose, ce travail n'est pas consensuel, je le sais, mais il faut l'ouvrir, c'est le travail sur les prescriptions.
Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à mettre 3 milliards sur la table pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants?
Je crois que c'est une responsabilité collective.
Cette petite fille a été sacrifiée sur l'autel de la nonchalance d'un État dont l'appareil judiciaire a failli.
Peut-être que l'honneur aurait appelé Gérald Darmanin à présenter au président de la République sa démission pour...
C'est la panique au gouvernement. Le meurtre de la jeune Liana met en évidence l'inaction de l'État dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Le Premier ministre tente de surnager, mais les Français ont de moins en moins confiance dans leur justice. Un dossier qui devient explosif en période électorale. C'est ce qu'on regarde dans ce numéro 153 du Bourbon de Serge. C'est l'affaire de trop, celle qui vient fracturer un pacte républicain au cœur duquel figure la protection des personnes les plus vulnérables, le droit et la justice contre la loi du plus fort. Peut-être davantage que l'abjection du crime, c'est le sentiment qu'il aurait pu être évité qui révolte les Français. Si le meurtrier présumé de la jeune Liana avait été entendu par les gendarmes en février de cette année dans le cadre d'une autre affaire, peut-être se serait-il retrouvé derrière les barreaux. Et le crime n'aurait pas été commis. Une enquête administrative menée par l'inspection générale de la justice et l'inspection générale de la gendarmerie nationale doit faire la lumière sur les éventuels manquements des magistrats et des enquêteurs. Ces conclusions seront connues le 19 juin. En parallèle, les 70 000 plaintes en souffrance concernant des mineurs victimes d'infractions sexuelles seront réexaminées d'ici le 14 juillet. Depuis une semaine, Gérald Darmanin va de plateau en plateau, laissant entendre qu'il s'agit uniquement de défaillances individuelles. Il ne manque jamais de rappeler que le 27 janvier 2025, un mois après avoir été nommé garde des Sceaux, il a adressé une circulaire aux procureurs et aux présidents de tribunaux. Celle-ci, au détour d'un paragraphe, inscrivait les violences physiques ou sexuelles contre les mineurs parmi les chantiers prioritaires. L'ennui, c'est que dans ce texte, tout ou presque devient prioritaire. La lutte contre les organisations criminelles, la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre les violences faites aux personnes, etc. Du coup, la question de la démission du ministre de la Justice a été posée mardi par la députée insoumise, Gabrielle Catala.
À présent, vous jetez en pâture les magistrats que vous avez noyés sous des dizaines de priorités pour vous défausser après avoir refusé d'entendre leurs alertes sur les moyens insuffisants de la justice. Pire, vous lancez une enquête sur les responsabilités qui ont conduit au drame. Ne craignez-vous pas qu'elle remonte jusqu'à vous, monsieur Darmanin ? La question n'est pas « que faire ?» Nous avons la réponse. Nous n'avons pas besoin d'une énième loi d'affichage, mais d'une loi cadre pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes et aux enfants. Un budget de 3 milliards et la prise en charge intégrale par la Sécurité sociale d'un parcours de soins pour toutes les victimes. La question est plutôt, pourquoi avez-vous décidé de ne rien faire? Et quand assumerez-vous votre part de responsabilité en présentant votre démission?
J'ai regretté la politisation et, il faut bien le dire, le manque de respect, sans doute. Puisque, dès ce week-end, votre président de groupe politique a appelé la démission de membre du gouvernement. Et si vous pensez à cet instant, madame, que vous allez refaire, protéger, donner du courage aux enquêteurs, aux magistrats, à toute la société, si vous allez protéger les enfants en faisant de la politique politicienne, je pense que vous vous trompez frontalement. Je vous demande de ne pas renverser le gouvernement comme l'année dernière pour pouvoir augmenter ses budgets, en effet, mais aussi de voir que quand il y a des responsabilités, laissez les ministres prendre les sanctions qui vont avec ces responsabilités.
Les socialistes estiment également que Gérald Darmanin devrait démissionner.
Dans toute démocratie mature, le garde des Sceaux aurait mis en jeu sa responsabilité. Et plutôt que se défausser sur les autres, il s'agirait aussi de reconnaître que par la cacophonie qui l'entretient, par des priorités qui se sont faites au détriment des investissements nécessaires dans la justice des mineurs, dans les moyens d'enquête, eh bien, il y a une responsabilité du garde des Sceaux actuel, de ses prédécesseurs, et des prédécesseurs également des ministres de l'Intérieur, dont le garde des Sceaux actuel fait partie aussi. Donc voilà, c'est un sujet qui devrait se poser à lui-même.
Mais Gérald Darmanin a des avocats chez les députés.
Moi, en tout cas, je ne vais pas demander des comptes, parce que j'estime en plus qu'on a pour le coup un ministre de la Justice qui est engagé sur les droits des enfants depuis le début. Il a parlé des circulaires qu'il a mises en place, et c'est vrai, je les ai vus depuis le début. C'est aussi une ministre qui s'est engagée à reprendre les travaux sur l'imprescriptibilité des crimes sur mineurs. Donc on a quand même un ministre de la Justice qui essaie de bouger les choses vis-à-vis des mineurs. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas faire de règlement de compte. Par contre, je pense qu'il est important que l'enquête aille au bout, qu'on puisse identifier les éventuels dysfonctionnements collectifs et potentiellement individuels, et que ça nous serve à améliorer le dispositif. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas en faire un acte politique. Cette petite ne mérite pas qu'on en fasse un acte politique.
Perrine Goulet n'est pas la seule à défendre Gérald Darmanin.
Non seulement il faut qu'il reste à son poste, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc ce qu'on attend maintenant du gouvernement, c'est qu'il agisse. Il agisse comment ? Il agisse en analysant les raisons de ce drame et de ce naufrage absolu. Pourquoi les services d'enquête ne discutent pas entre eux ? Comment ça se fait qu'il y a des documents qui sont passés par la poste d'un tribunal à un autre? On est pauvre dans tout, on est pauvre en greffier, on est pauvre en juge, on est pauvre en moyens informatiques. Et c'est ça maintenant auquel il faut répondre. Surtout dans cette affaire, le sujet, il n'est pas tel ou tel ministre. Qui peut croire que c'est Darmanin qui est en cause dans cette affaire? On voit bien qu'on a affaire à un problème systémique. Et ce problème systémique, il faut qu'on le résolve.
Une proposition de loi contre les violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des femmes et des enfants a été déposée en novembre 2025. Ce texte, que l'on doit à la députée socialiste Céline Thiébaut-Martinez, a été co-signé par une centaine de députés. L'éventail s'étend des communistes jusqu'à la droite républicaine. Le texte s'inspire des recommandations de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, plus connue par son acronyme la CIVISE. Entre 2021 et 2023, cette commission a recueilli 30 000 témoignages à l'occasion d'auditions publiques dans toute la France. Ce travail a donné lieu à 82 recommandations formalisées dans un rapport remis au gouvernement. La proposition de loi qui en découle est dite globale. C'est une loi cadre. Elle fixe les grandes orientations de la politique à mener pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Je pense que c'est la société tout entière qui faillit, parce que ça fait maintenant de nombreuses années qu'on dit, qu'on alerte, qu'on pointe, pas des dysfonctionnements, mais des manières de faire qui ne permettent pas d'identifier les auteurs, qui ne permettent pas d'accompagner les victimes. Et soit on engage une vraie réflexion, et la loi intégrale peut répondre à cette exigence, soit on continue à faire ce qu'on est en train de faire là, et une affaire Liana, il y en aura peut-être une dans un mois, peut-être une la semaine prochaine, et on sera exactement au même point. Avec cette loi, si nous engageons le débat, il est nécessaire de dégager des crédits. Je rappelle que la loi intégrale, son coût a été estimé à 2,7 milliards d'euros, mais que les violences faites aux femmes et aux enfants coûtent chaque année à notre société plus de 90 milliards d'euros. Et ça ne comptabilise pas les vies brisées.
Surprise, même la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, soutient ce texte. Elle, qui ne parle que rarement aux journalistes, est venue à notre rencontre.
Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à demander de façon très transpartisane l'inscription du texte sur la loi intégrale, parce que le sujet, et on l'a bien vu, n'est pas de résoudre la question par une ou deux mesures qui permettraient de progresser, mais c'est vraiment un changement de paradigme que nous demandons, avec le fait, un, de mettre cela comme priorité nationale pour toutes les autorités, deux, d'avoir des dispositifs qui couvrent l'intégralité de la chaîne, que ce soit la chaîne judiciaire, la chaîne éducative, la chaîne associative, la chaîne médicale, etc. Et c'est extrêmement important pour nous d'avoir ce regard à 360 degrés. Et puis il y a évidemment une question de moyens. Il y a les travaux vont commencer sur les budgets de la nation. Le gouvernement y travaille aujourd'hui et il faudra évidemment renforcer les moyens consacrés à cette question qui doit être à nouveau, et je le répète, la priorité de la nation.
Mais il faut aller vite. Sébastien Lecornu a bien compris que l'opinion réclamait des actes. Le 15 juillet, l'Assemblée examinera un projet de loi sur la protection des enfants, un texte adopté en Conseil des ministres avant le meurtre de Liana. Le Premier ministre a décidé de se servir de ce projet de loi pour faire adopter plusieurs dispositions.
La première des choses, nous avons un projet de loi qui a déjà été discuté et validé par le Conseil d'État et le Conseil des ministres visant à la protection des mineurs, qui emportait déjà la plupart des réponses qu'un certain nombre d'entre vous, de manière transpartisane, avaient demandé de reprendre, je regarde la députée Santiago et d'autres, que nous avons donc repris. Ce vecteur-là, il va être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 15 juillet. Ce texte de loi, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, va être rectifié par un Conseil des ministres qui aura lieu dans 10 jours sur au moins 4 demandes qui nous semblent urgentes et qui correspondent malheureusement directement ou indirectement à l'affaire de la petite Liana. La première question, c'est évidemment l'alourdissement des peines. Deuxième des choses, et ça répond très directement à l'affaire sur laquelle le garde des Sceaux vous a répondu tout à l'heure, nous encadrerons dans un quantum de 3 mois, un quantum de délai, de temps, qui permettra aux enquêteurs, qui obligera et les enquêteurs et les parquets d'effectuer les premiers actes d'enquête qui permet ou non d'emmener un présumé coupable à la garde à vue. La troisième chose, ce travail n'est pas consensuel, je le sais, mais il faut l'ouvrir, c'est le travail sur les prescriptions. Puis la quatrième chose, et c'est une absolue nécessité, vous le savez toutes et tous, c'est la question de la transparence des procédures.
En revanche, la proposition de loi globale transpartisane reste pour l'instant dans le brouillard. Le Premier ministre a indiqué qu'elle serait prochainement transmise au Conseil d'État et qu'il recevrait les députés à l'initiative de ce texte. Mais ce dernier n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. Peut-être parce que le gouvernement redoute de mettre la main au portefeuille.
Il y a eu le MeToo des adultes et des enfants, les rapports, les commissions d'enquête, les questions qu'on vous pose inlassablement ici, les 82 mesures de la Civise et la loi intégrale portée par les associations et les parlementaires. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Mais il a fallu qu'une enfant meure pour qu'en grand seigneur vous daigniez nous dire « Ok, pour la loi intégrale ». Quand on vous pose la question des moyens, vous nous dites « On ne touchera pas au budget du ministère de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation et de l'Égalité l'année prochaine ». Mais vous réalisez que c'est justement ce budget-là qui est insuffisant, qui est responsable des femmes et des enfants qui sont morts. Vous réalisez que c'est ce budget-là qui fait que les magistrats ne peuvent pas faire leur travail correctement. Alors, Monsieur le Premier ministre, une loi intégrale sans moyens supplémentaires, c'est encore abandonner les victimes. Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à mettre 3 milliards sur la table pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants?
Réponse d'Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
Vous êtes en colère et je crois que les Français aussi sont en colère. Et ils ont raison de l'être. Et j'espère d'ailleurs que cette colère ne va pas faiblir, que cette colère va rester dans la société et que cette colère saine et nécessaire va continuer à nous habiter de manière à ce que nous puissions continuer à agir et à prendre toutes les dispositions qui sont absolument nécessaires pour protéger les enfants et protéger les femmes victimes de violences sexuelles. Les victimes ont toujours parlé. Les enfants ont toujours parlé. Mais la justice ne les a pas toujours entendus, la société ne les a pas toujours entendus. Les femmes ont toujours parlé et les mères ont toujours protégé leurs enfants. Et ce que nous voulons faire justement, notamment dès maintenant, dès cette semaine avec une lettre rectificative dans le projet de loi dédié à la protection de l'enfance, c'est de l'élargir à la lutte contre les violences sexuelles.
Ce magnifique numéro de Voltige vous est offert par le gouvernement Le Cornu. Vous remarquerez que la réponse de la ministre escamote complètement la question des 3 milliards. On veut bien se payer de mots, mais pas sortir le pognon. Et l'extrême droite? On s'attendait à une débauche d'imprécations et de condamnations. Ce crime odieux n'apporte-t-il pas de l'eau au moulin des partisans de l'ordre? Étonnamment, le ton est resté mesuré. Écoutez la réponse d'Éric Ciotti lorsqu'on lui demande si Gérald Darmanin doit démissionner.
Je crois que c'est une responsabilité collective. Ceux qui ne doivent plus rester aux responsabilités, c'est ceux qui, depuis des années, voire des décennies, portent ces politiques. Ces politiques impuissantes, ce n'est pas le fait de M. Darmanin ou d'un autre. C'est le fait d'un système qui a démontré son impuissance, son échec, sa faillite. On entend toujours, après des drames qui se répètent sans cesse, les mêmes réponses, un nouveau texte de loi, la saisine des inspections, tout ça pour masquer des fautes, une incurie, un déficit cruel de moyens. Monsieur Darmanin nous dit qu'il va faire examiner en un mois, un peu plus d'un mois, 70 000 enquêtes qui ne l'ont pas été. Mais avec qui? Avec quels moyens?
Du côté du Rassemblement national, c'est un drame en deux actes qui s'est joué. Et écoutez Marine Le Pen interpeller le Premier ministre mardi lors des questions au gouvernement.
Cette petite fille a été sacrifiée sur l'autel de la nonchalance d'un État dont l'appareil judiciaire a failli. Un État englué dans le déni de l'explosion de la criminalité contre les enfants et la culture généralisée du pas de vague. Vous n'êtes pas exclusivement responsable de tout cela, parce que ces dérives durent depuis des décennies, mais vous avez préféré les camoufler. J'en veux pour preuve le rapport de 2022 de la CIVIS qui a été volontairement caché. Monsieur le Premier ministre, une seule question. Comptez-vous tout remettre à plat pour permettre aux Français de retrouver la confiance aujourd'hui terriblement entamée?
Vous l'avez remarqué, la présidente du groupe parlementaire RN ne réclame pas la démission de Gérald Darmanin. Acte 2, aujourd'hui à Bruxelles, avec Jordan Bardella.
Parce que compte tenu de la gravité de l'affaire, compte tenu de la multiplication des drames et des affaires qui se succèdent dans notre pays, et de l'émoi que suscite cette affaire en France, je pense qu'un responsable politique est responsable avant d'être politique. Et donc, je crois précisément que, parce qu'il a été ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité des Français, parce qu'il est en charge de l'institution judiciaire et que cette institution a manifestement failli, peut-être que l'honneur aurait appelé Gérald Darmanin à présenter au président de la République sa démission.
Visiblement, le président du Rassemblement national s'embarrasse de moins en moins de l'avis de Marine Le Pen. Il s'était déjà démarqué sur la question des retraites. Voilà maintenant qu'il prend le contre-pied de la patronne des députés sur la justice. Si d'aventure, le 7 juillet, la Cour d'appel permettait à Marine Le Pen d'être candidate à la présidence de la République, le jeune Bardella pourrait s'exposer à un douloureux retour de bâton. Merci d'avoir regardé cette chronique. Comme d'habitude, les pouces et les partages sont les bienvenus et les abonnements à la chaîne encore plus. Pour nous soutenir financièrement, je vous donne rendez-vous sur DonorBox. Vos dons sont la garantie de notre indépendance. À ce propos, je rappelle que Pure Politique n'est le relais d'aucune chapelle. Notre ambition est de décrypter l'actualité politique, pas de soutenir tel ou tel candidat. Ce serait tellement confortable. Mais notre métier consiste à porter la plume dans la plaie, comme le disait si bien Albert Londres, quitte parfois à déplaire. C'est le risque de la liberté. On se retrouve lundi pour un nouveau Pôle Express.